Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.
Alors donc, je vais vous présenter pour commencer les trois intervenants de cette table ronde, en précisant d'emblée qu'ici, personne n'est le représentant ou le porte-parole d'un groupe quelconque, ni encore moins d'un camp. Nous intervenons tous à titre personnel pour apporter des éléments à la réflexion et répondre à la question qui est posée. Chrétien missionnaire versus chrétien identitaire, point d'interrogation. On va revenir au titre. Et d'abord, je vais vous présenter à ma droite le père Christian Delarbre, théologien, recteur de l'Institut catholique de Toulouse, prêtre du diocèse d'Auch. À ses côtés, Jean-Pierre Denis, journaliste, poète, essayiste, directeur de Bayard Culture et Religion, fondateur et directeur du site L'Anti-Éditorial. Et enfin, Émeric Pourbet, journaliste, rédacteur en chef de l'hebdomadaire France Catholique et présentateur des émissions Enquête d'Esprit et Les Belles Figures de l'Histoire sur CNews. Chrétien missionnaire versus chrétien identitaire, point d'interrogation. On aurait pu appeler ça chrétien identitaire, chrétien missionnaire, une contradiction dans les termes. Chrétien missionnaire, identité chrétienne au pluriel. Je pense que la première chose que nous devons faire, c'est de définir les termes du débat. Et on va commencer bien sûr par chrétien missionnaire. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être missionnaire pour un chrétien dans la France et le monde d'aujourd'hui? Quelle serait la mission d'un chrétien? Et je vais me tourner tout de suite vers l'homme d'église, vers le père Christian Delarbre, pour qu'il nous donne un peu sa vision, sa perception et sa définition du terme.
Bonjour à tous. Définition du terme, ça sera un peu, vous dites aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont de toujours aussi. Un chrétien missionnaire, c'est un disciple de Jésus qui témoigne du Seigneur, qui annonce son message. Et dans le terme mission, il y a l'idée d'être envoyé. Donc c'est en église. On ne s'est pas envoyé soi-même. On est envoyé du Seigneur dans l'église, dans la vie ecclésiale. On témoigne de façon très différente. Le message élémentaire, saint Augustin le rappelait déjà à l'époque, on annonce un Dieu d'amour qui nous a été révélé par Jésus, lequel nous a enseigné à répondre à cet amour et à aimer notre prochain. Et c'est le message du salut, la bonne nouvelle. Il n'y a pas une seule manière d'être missionnaire. Ça appartient à chacun d'être apôtre par votre baptême. On est envoyé, c'est un autre terme de la mission. Voilà, enfin, il faut que je fasse une réponse courte.
C'est très bien. Jean-Pierre Denis, comment être un chrétien missionnaire à notre époque? Qu'est-ce que c'est être un chrétien en mission dans la France et le monde d'aujourd'hui?
Alors, je voudrais pas... Bonjour à tous. Je voudrais pas tout de suite casser l'ambiance et dévisser la table ronde alors qu'elle vient juste d'être montée. Mais en réfléchissant à notre rencontre et à la question qui est posée là à l'instant, je me disais, je ne sais pas ce que c'est qu'un chrétien identitaire, je ne sais pas ce que c'est qu'un chrétien missionnaire, j'aimerais savoir ce que c'est qu'un chrétien. Et je pense que ce mot me suffit. Je milite depuis de nombreuses années pour un catholicisme sans étiquette, et je pense que l'un des problèmes que l'on rencontre, c'est justement le fait de nous mettre mutuellement un peu partout des étiquettes. Mais, évidemment, je vais essayer quand même de répondre à la question. Pour moi, le christianisme commence aujourd'hui, maintenant. Peut-être que le chrétien identitaire, c'est celui qui croit, qui craint, qui pense que le christianisme finit aujourd'hui. Et peut-être que le chrétien missionnaire, c'est celui qui pense qu'il commence aujourd'hui. Et peut-être que nous sommes tour à tour, d'ailleurs, des chrétiens identitaires et des chrétiens missionnaires. Des gens qui pensent que ça, qui ont peur que ça finisse, et des gens qui espèrent que ça commence. Alors, pour moi, pour le dire d'un mot et répondre peut-être plus précisément à la question que tu poses, eh bien, si le christianisme commence aujourd'hui, la mission, c'est dire « je crois ». Le dire publiquement, et attester de ce qu'on croit. Et moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire signe. Et faire signe, ça veut dire être visible, être présent, à la bonne hauteur, je dirais, ni trop bas, ni trop haut, voilà, et à la hauteur de chaque personne, en fait. C'était il y a plus de 50 ans que le pape Paul VI disait qu'on a besoin de témoins. Notre époque veut des témoins. Pape François, il parle dit la même chose quand il dit que finalement c'est dans la proximité que s'établit la mission. Et donc voilà, pour moi, être missionnaire, c'est être convaincu que l'annonce de l'évangile, c'est pas l'affaire d'un corps spécialisé, d'une institution. Évidemment, l'institution est fondamentale, elle est utile, mais c'est pas l'institution qui va jouer ce jeu-là. C'est être convaincu que ça dépend de chacun. Pour dire un chiffre, je crois qu'on peut dire qu'il y a 2% de catholiques pratiquants en France. Si c'est peut-être, mettons, 4% si on veut compter de manière un peu plus large. Peu importe, en fait. S'il y a entre 2 et 4% de catholiques pratiquants qui sont convaincus que le christianisme commence avec eux, que le témoignage commence avec eux, que la mission, c'est dire « je crois », ça va avoir un impact visible et vraiment perceptible dans la société française.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Denis. Émeric Pourbet, votre réponse à la question posée, en tout cas des éléments de réflexion.
Bonjour à tous, merci de votre invitation. Il me semble que dans votre question, qu'est-ce qu'être missionnaire aujourd'hui, il y a une référence au passé, peut-être une époque, avec aussi là, une question dans la question, est-ce que c'était mieux avant ? Alors, moi, j'ai envie de répondre que, effectivement, il faut se situer dans l'aujourd'hui de nos vies, mais en regardant ce qui se passe réellement et de fait, en constatant qu'aujourd'hui, le monde est en feu à tous les niveaux. On le constate dans la société, la violence, etc. Et que dans cette situation qu'on a à vivre, eh bien, il y a à se comporter en chrétien et en chrétien missionnaire, effectivement, puisque je suis comme Jean-Pierre, j'aime pas les adjectifs, et missionnaire, en fait, ça fait partie du package, si je puis dire, du chrétien aujourd'hui. Et comme il y a 2000 ans, d'ailleurs, puisque ça a commencé il y a 2000 ans. Donc, je suis pas de ceux qui considèrent que c'était mieux avant. J'aime bien cette phrase, « Les temps anciens ne te semblent meilleurs que parce qu'ils ne sont pas les tiens ». Donc, on a à vivre cette situation telle qu'elle est. Mais je crois que ce à quoi ça nous appelle, c'est à ne pas être tiède. Je crois que il y a eu un récent sondage là qui a fait couler beaucoup d'encre, qui montre que moins de 50% des Français désormais croient en Dieu. Ça veut dire qu'on a une responsabilité en tant que chrétien sur cette situation, en tant que catholique, et que aujourd'hui on peut plus se contenter d'être des chrétiens conformistes, mais qu'on a justement à éviter à tout prix cette tiédeur. Et pour moi, la mission, la première chose à faire, c'est pas une technique, c'est pas du marketing, c'est d'abord se ressourcer dans celui qui nous donne la force, dans les sacrements en premier lieu, je pense, parce que c'est pas nous qui convertissons, c'est le Christ en premier lieu, et que voilà, on ne fera rien sans lui. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la parole de Saint Jean que j'aime beaucoup citer. Et voilà, et c'est ça qui m'anime, moi, dans mon métier de journaliste, et quelle que soit d'ailleurs notre activité, c'est vraiment d'essayer au maximum, c'est la vie de tout baptisé, en fait. La mission, pour moi, c'est ça.
Alors, je vais repartir de l'intervention d'Émeric Pourbet et poser une question subsidiaire, si on peut dire. Est-ce qu'on peut être chrétien missionnaire ou chrétien tout court, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, comme on l'était il y a 30 ou 50 ans ? Jean-Pierre Denis, peut-être.
Alors, évidemment, non. Et d'abord parce que c'est vrai que la place du catholicisme, du christianisme dans la société française, tout particulièrement, n'est malheureusement plus du tout la même. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sans doute plus tendu pour de multiples raisons. Parce qu'il y a un phénomène peut-être cumulatif de sécularisation, il y a une espèce d'effet boule de neige contre lequel on a beaucoup de mal à lutter, parce que les gens confondent religion, assimilent toutes les religions à cause du problème spécifique de l'islamisme, peut-être aussi parce que la question des abus sexuels, on attend le rapport de la CIAZ la semaine prochaine, peut-être que la question des abus sexuels aussi a renforcé une certaine hostilité qu'on peut comprendre vis-à-vis de l'Église. Donc aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus tendu, souvent beaucoup plus tendu. Mais c'est aussi peut-être beaucoup plus facile à certains égards parce que il y a justement une telle déperdition de repères que être des chrétiens qui font signe, c'est attendu en fait, de certaines personnes qui se disent peut-être, tiens, tu as la chance de croire. Et Aymeric faisait allusion au sondage de l'Association des journalistes de l'information religieuse qui, effectivement, disait qu'un Français sur deux croit en Dieu et donc un Français sur deux ne croit pas en Dieu. Chez ceux qui disent ne pas croire en Dieu, il y a peut-être à la fois des gens qui sont dans un rejet, donc dans un blocage total. Il y a aussi peut-être des gens qui sont dans une absence totale de questionnement. Mais il y a aussi, et cela il m'intéresse évidemment particulièrement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans un désir de croire. Et ce désir de croire, ils ne trouvent pas à s'exprimer. Et donc, il faut qu'ils rencontrent une parole chrétienne. Et ça, c'est quelque chose qui me semble beaucoup plus nouveau, beaucoup plus fort. Peut-être parce que je le perçois, moi, c'est peut-être aussi, mon itinéraire personnel, d'être plus capable de le dire aujourd'hui que peut-être je n'aurais été. Mais je crois que c'est une tendance de la société française.
Mon père, peut-être que vous pouvez aussi répondre à la question que j'ai posée, parce que vous êtes en première ligne face à cette situation.
Souvent, c'est oui et non, la réponse. En effet, on ne peut pas être chrétien comme autrefois, comme à je ne sais pas quelle époque, ne serait-ce que parce qu'on est chrétien aujourd'hui, avec ce qu'on est. Être chrétien, c'est être disciple du Christ dans le temps qu'il nôtre, c'est-à-dire que dans notre culture, qu'on le veuille ou non, en fait, on porte les limites de notre culture, les limites du temps qu'il nôtre, ses richesses aussi. On porte les questions, les questionnements, les enjeux, les défis. On porte tout ça. Hein. C'est-à-dire que c'est le principe d'incarnation, hein, quelque part. C'est-à-dire le message de Jésus se donne à connaître dans nos vies qui sont celles d'aujourd'hui. Et elles diffèrent des vies d'il y a 100 ans ou 200 ans ou dans un autre pays. Donc il y a quelque chose toujours de différent. Et c'est un enjeu de chaque époque de l'Église, de réinventer sa manière d'être chrétien. Parce qu'il faut être chrétien, c'est-à-dire fidèle à l'Évangile, mais dans un monde qui a changé et dont quelques enjeux viennent d'être rappelés. Et en même temps, c'est bien le même Évangile toujours. Bon, en ce moment, je suis en train de lire Catherine de Sienne, c'est pas d'aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'elle dit de la vie spirituelle, du chrétien dans le monde, de la manière de se laisser interpeller par le message du Christ pour en être transformé, c'est toujours la même chose. Vous voyez, l'Évangile, il est écrit il y a 2000 ans. On ne cherche pas à avoir un nouvel évangile. Et en même temps, cet évangile, ça doit d'ailleurs être un soutien essentiel de notre foi de chrétien, ça. Découvrir que l'évangile est un message pour aujourd'hui, mais que c'est bien moi, aujourd'hui, dans ce que je suis, qui vais l'entendre et qui vais m'efforcer d'en être transformé. Et les points de transformation diffèrent selon les époques. Enfin, voilà, comment je dirais. C'est un peu abstrait ce que je raconte, mais heureusement, mes collègues sont plus dans le concret, dans les exemples. Les exemples ont été donnés. Hein. Voilà, je dirais ça.
Alors, pas de nouvel évangile, mais peut-être nouvelle évangélisation, en revanche, avec les moyens d'aujourd'hui. Aymeric Pourbet, vous êtes un homme de médias. Qu'est-ce qui a changé, en fait, dans le monde d'aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas être chrétien en 2021 comme on l'était en 1990 ou en 1970?
Je crois que la grande différence, c'est que les repères de la société qui pouvaient garder une apparence de christianisme, aujourd'hui, ont volé en éclats. Des sociologues parlent de l'archipel français en parlant de la société française. Ça veut dire qu'on est dans une société éclatée où on se regroupe plutôt par affinité communautaire que par un idéal commun, que ce soit la nation ou au-dessus, bien sûr, Dieu. Et je crois que ça change beaucoup parce que un certain nombre, si je reprends le sondage dont on parlait, 50% de Français qui ne croient plus en Dieu, moi ce qui m'intéresse c'est ceux qui croient encore. De près ou de loin, ça ne veut pas dire que ce sont des pratiquants réguliers, mais ça veut dire que pour eux c'est important, c'est un repère important, et à travers mon activité, notamment à la télévision, effectivement, je rencontre des gens extrêmement intéressants et intéressés par la chose chrétienne. Même si, encore une fois, ils ont sans doute parfois été blessés par l'Église, donc ils ont du mal à y revenir. Mais néanmoins, quand il se passe quelque chose dans leur vie, la mort d'un proche, un enterrement, ils ont recours à l'Église. Ça, c'est un réflexe encore qui est très présent. 70% des enterrements aujourd'hui ont encore lieu à l'Église. C'est un champ d'évangélisation, mais ça implique aussi, en retour à nous, chrétiens, d'être à la hauteur. Et c'est là, à mon avis, le point clé. C'est que j'ai rencontré, par exemple, j'ai en tête l'exemple de Michel Onfray, qui n'est pas spécialement une grenouille de bénitier, mais qui s'intéresse beaucoup, alors parfois avec des erreurs manifestes, on aurait envie de lui répondre, mais néanmoins je pense qu'il y a une vraie recherche chez lui. Il est venu dans mon émission, donc c'est pourquoi j'ai pu percevoir cet aspect-là de chez lui, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il ne trouve pas des personnes, peut-être des prêtres ou des catholiques, qui lui répondent vraiment sur les questions essentielles, la vie, la mort, les fins dernières, tout ce qu'on a quelque part plus ou moins oublié dans l'Église ces dernières décennies, malheureusement, et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui, les temps, la pandémie font que il est temps de retrouver ces notions-là, de les porter haut et d'expliquer que la mort n'est pas la fin de tout, qu'il y a un au-delà, que la vie éternelle, ça vaut le coup d'être tenté, et de l'expliquer, parce que bon, moi je le dis mal, mais je ne suis qu'un journaliste. Je pense que derrière, il faut vraiment un discours construit en raison, qui rende compte de notre foi avec intelligence, et peut-être c'est ça qui manque le plus aujourd'hui.
Alors, on va revenir au deuxième terme de ce débat, chrétien identitaire. Est-ce que cette expression a du sens pour vous? Est-ce que vous connaissez des chrétiens identitaires, en tout cas des chrétiens qui se revendiquent comme tels? Père Christian Delarbre.
Quand on m'a présenté le thème de la journée, j'avoue que j'ai un peu tiqué sur le terme, parce que je vois pas bien ce qu'on veut dire par là. En effet, la question de l'identité, c'est important, et des identités, on va y revenir. Pour moi, identitaire, ça sonne comme une pathologie de l'identité. Donc je suis un peu embêté de dire ça, ce sont des identitaires. Vous voyez, c'est quelque part, on a l'impression que c'est une identité, une étiquette, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quoi, qui est collée sur telle ou telle catégorie de personnes. Donc c'est une identité qui vous est... Moi, je vois pas bien à quoi on fait référence. Je sais pas si des chrétiens se disent « je suis un chrétien identitaire ». Voilà. Par contre, il y a une question de la façon, et aujourd'hui vous parlez de l'archipel, hein, donc il y a la question du brassage des identités, qui est devenue plus complexe sans doute. Et ça, c'est une vraie question. En catholicisme, il y a plusieurs formes, voilà, on est dans des milieux différents, les sociétés sont multiples, elles sont archipélisées, donc il y a des dangers de séparation, et donc on est tous questionnés sur notre identité. Et on nous renvoie aussi. Alors c'est souvent ça aussi, la question de l'identité nous est renvoyée. Se rappeler que le mot de chrétien a été donné par les païens, aux premiers disciples à Antioche. Donc quelque part, on va vous renvoyer votre identité. Tu es ceci, tu es cela. Ou tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'on met derrière le mot identitaire, mais c'est vrai que la réflexion autour de notre identité chrétienne, comment on en témoigne, quel signe elle donne, quelle est sa diversité, sa pluralité, comment on articule cela... Encore une fois, c'est aussi une question qui est inculturée, c'est-à-dire que forcément nous portons cette question de l'identité chrétienne dans une société, dans une culture qui comprend les identités d'une certaine manière. Je ne sais pas si je suis clair. Vous voyez ? Et quelque part, ça nous revient en retour. Voilà. On n'est pas innocent de la manière dont la société veut construire les identités, ou les déconstruire, ou les conflictualiser, ou ceci ou cela. On y reviendra.
Émeric Pourbet, chrétien identitaire, est-ce que ça a du sens pour vous ?
Alors d'abord, je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'identité est un gros mot. Voilà, ça me paraît être important de dire, parce que effectivement, il faut entendre, c'est une demande de la société aujourd'hui, comme l'a dit le père, à tort ou à raison, et donc on n'est pas chrétien dans une bulle, donc il faut entendre cette demande-là. Hein, ce que je disais un peu avec l'exemple de Michel Onfray, par exemple. La deuxième chose aussi que ça m'évoque, c'est que la foi n'est pas non plus quelque chose de désincarné ou d'abstrait. On vit dans une culture, vous parliez d'inculturation. Eh bien, aujourd'hui, il faut que les chrétiens, les catholiques, s'inculturent à ce qui les environne. On n'est pas, encore une fois, dans notre bulle où il fait chaud. Il faut voir le monde à l'extérieur et, effectivement, toute cette soif. Moi, je l'entends, en fait, cette demande d'identité comme une soif, d'abord. Une soif qu'il faut peut-être rectifier par endroits, nuancer, corriger, mais néanmoins, il ne faut pas la rejeter parce que, voilà, effectivement, on est tous en recherche d'identité. Par ailleurs, la dernière réflexion que je ferai à ce sujet, c'est que on est dans une société archipélisée, on est aussi dans une société où règne le relativisme. C'est-à-dire que ce soit au plan des valeurs morales, éthiques, on voit bien tous les débats auxquels ça renvoie, que ce soit au plan culturel où on dit toutes les cultures se valent, et même au plan religieux où aujourd'hui les gens ne savent plus très bien, y compris les chrétiens d'ailleurs, ce que c'est que la résurrection. Est-ce qu'ils y croient forcément ? C'est pas sûr. Il y a des sondages qui montrent qu'il y a des doutes là-dessus. En tout cas, bon, bah voilà, on sait que par le passé, le catéchisme qui était enseigné aux enfants n'était pas forcément extrêmement cohérent et rigoureux. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on ne sait plus très bien à quoi on croit. Et donc, tout ça fait que, dans ce monde de relativisme, l'identité, c'est une forme de réaction, peut-être un peu primaire, mais néanmoins, qui appelle quelque chose, qui appelle des réponses, encore une fois. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable d'y répondre.
Alors, Jean-Pierre Denis, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, vous aviez publié un livre, « Pourquoi le christianisme fait scandale ?» Et à l'époque, vous avez un peu accusé d'aller vers un catholicisme replié ou identitaire. Donc je sais que vous avez beaucoup réfléchi à la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Chrétien identitaire, vous en connaissez ?
Ben, je vais répondre franchement. Oui, bien sûr, j'en connais. J'en connais et parfois j'ai été confronté à ces chrétiens identitaires qui sont peut-être surreprésentés, peut-être plus visibles sur les réseaux sociaux. Mais qui existent. Alors, je voudrais commencer aussi par dire que, et pour le coup, sur ce point-là, je serais d'accord, c'est-à-dire que je comprends le réflexe identitaire, en effet. Moi, j'aimerais bien parler de ça, de ce réflexe identitaire. Pour moi, il est juste normal, en fait. C'est-à-dire que dans une société qui est en crise culturelle, et cultuelle, mais ça c'est encore une autre question, mais qui est en crise, le réflexe identitaire, c'est de l'ordre du réflexe, et c'est normal. Donc je suis le premier à l'éprouver. Je pense qu'on l'éprouve tous plus ou moins, à un degré ou à un autre. Donc d'abord, je comprends ce phénomène. Ensuite, évidemment, ce qui me dérange, c'est quand ce christianisme identitaire devient un christianisme sans Christ. C'est-à-dire finalement quand l'identité l'emporte sur la foi. Alors peut-être que cette tendance-là, ce risque-là, peut-être qu'à une autre époque, il se situait plutôt à gauche, et peut-être qu'aujourd'hui, il se situe plutôt à droite ou à l'extrême droite. Pour moi, ça, c'est un danger mortel. Et je pèse mes mots. Un christianisme sans Christ, c'est un danger mortel. Donc, moi, je me dis, vous savez, en réfléchissant à notre rencontre de ce matin, et à cette question de l'identité que tu nous invites à définir, je me disais, c'est curieux, parce que je suis très content de venir à Toulouse, parce que je suis toulousain. C'est mon identité. Et en même temps, j'ai vécu l'essentiel de... Parce que je suis né à Toulouse, j'ai été baptisé à Saint-Sernin, j'ai fait ma première communion... Ma profession de foi aux Jacobins, je me suis marié à l'église Saint-Sernin, donc je suis toulousain, voilà mon identité. Et quand je reviens ici, on me dit « tu es parisien », parce que j'ai passé la totalité de ma vie d'adulte à Paris. Je suis catholique, ma mère est juive. Où est mon identité ? Je suis catholique. Je disais « ma mère est juive ». Ma mère est juive, mais elle a été cachée par des religieuses grâce au réseau de Mgr Saliège ici à Toulouse. Où est mon identité ? Ce que je veux dire par là, par ces petits exemples, et je pourrais les multiplier à l'infini, quand je parlais de mon père et de ma mère, nous avons... Où est notre identité ? Vient-elle de notre père et de notre mère ? Par définition, elle vient de la rencontre entre notre père et notre mère. Par définition, elle vient de là où nous sommes nés, mais elle ne se réduit pas à où nous sommes nés. Donc, je trouve que le danger, pour moi, c'est pas l'identité, c'est l'identitarisme, c'est-à-dire le fait d'être réduit à une dimension de notre identité. Je pourrais dire, je suis catholique, mais je suis laïque, j'ai fait mes études ici au lycée Saint-Sernin. Tiens, c'est un lycée public qui a un nom catholique. On est tout de suite, dès qu'on commence à creuser, dans des questions extrêmement complexes. Donc l'identitarisme, c'est la tendance aujourd'hui à nous enfermer dans une dimension univoque de notre identité, ce que certains parlent d'assignation, c'est pas un terme complètement faux, c'est-à-dire vous êtes ça. Peut-être, mais pas que ça. Et voilà. Alors pour moi, la juste place, ça serait de se situer entre l'identité univoque, fermée, et puis la fluidité, dans laquelle c'est l'autre danger en fait finalement de notre société, c'est-à-dire on n'est plus rien du coup. Et fluidité, vous voyez, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, c'est vrai dans tous les domaines de la société française, parce que si la société française est un archipel, c'est justement parce qu'il y a de l'eau un petit peu partout. Et donc, aussi, on peut naître nulle part. Bon, moi, je me dis, voilà, entre ces deux pôles, identité, fluidité, comment se situer? Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, revenons au fondamental, c'est-à-dire au Christ. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est, qui n'est ni une identité, ni une fluidité, c'est une personne. Voilà. Comment j'aborderai, moi, cette question?
Alors, pour aller un peu plus loin, je vais préciser un peu ma question, parce que chrétien identitaire, en tout cas ceux qu'on désigne comme tels, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des chrétiens qui se sentent menacés dans leur identité de chrétien par les évolutions sociétales de la France, mariage pour tous, PMA, GPA, ou est-ce que ce sont des chrétiens qui se sentent menacés dans leur identité de chrétien de France? Et là, on parle de la montée de l'islam dans la société, des revendications, des signes religieux islamiques. Comment vous répondriez à cette question, Émeric Pourbet?
Oui, de fait, je pense que effectivement, ceux que vous décrivez comme les identitaires ou les chrétiens identitaires se sentent menacés, de fait. Mais je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que la menace est réelle. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'effectivement, on la vit dans un réflexe de peur et de repli sur soi? Ou est-ce qu'on la vit comme un appel? Moi, j'ai envie de dire, l'identité aujourd'hui, c'est la question de l'identité est un lieu de mission. Puisque les gens, à tort ou à raison, la ressentent, et on ne peut pas nier le fait qu'il y a un problème. Il y a un problème avec une partie de l'islam aujourd'hui. Il y a un problème, effectivement, sur la question de l'identité homme-femme. Enfin, je veux dire, et on pourrait multiplier les exemples. Donc, ne nions pas la réalité, regardons-la telle qu'elle est, mais après, regardons-la vraiment en chrétien, c'est-à-dire avec cette confiance qu'on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, en fait, les anges gardiens, je pense qu'aujourd'hui, il y a un combat, et ça, il ne faut pas le nier non plus, mais que ce combat, il est d'abord spirituel. Et c'est la parole de saint Paul qui me guide beaucoup, c'est-à-dire que nous ne luttons pas contre des êtres de chair et d'os, mais contre des légions de démons. Donc le combat, il est d'abord spirituel, il faut prendre des armes spirituelles. Et ça veut dire avoir une vie chrétienne digne de ce nom, ancrée dans la prière, dans les sacrements, dans les œuvres, et que tout ça, toute cette panoplie du combattant dont parle saint Paul, il faut nous en revêtir, parce que sinon nous sommes naïfs et nous allons au combat sans armes. Voyez, et je crois que vraiment, aujourd'hui, l'heure nous appelle à ça. Encore une fois, c'est pas un combat pour aller faire la guerre, c'est un combat... pour annoncer le Christ, mais déjà pour nous, parce qu'on n'est pas indemne de cette société dans laquelle on vit, on n'est pas indemne de ces peurs, de ces menaces, de ces tentations de repli. En revanche, effectivement, la question c'est comment est-ce qu'on les traite et comment est-ce qu'on les dépasse, parce que notre mission, encore une fois, c'est d'annoncer le Christ, et donc on ne peut pas se... Regardez la pandémie. Moi j'ai été frappé du fait qu'il y a eu une opportunité énorme pour... parce que les gens avaient envie qu'on leur parle justement de la vie éternelle, ils avaient peur pour leur vie, peut-être de manière universelle pour la première fois dans l'histoire, et que c'était pas possible de se replier, pardonnez-moi mon père, dans son presbytère, je parle des aumôniers, je parle des en refusant d'aller voir les malades. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés parce que les hôpitaux étaient très frileux, parce qu'il y a des tas de raisons qui empêchaient. Néanmoins, je regrette que cette opportunité-là n'ait pas été saisie, vous voyez. Et ça, ce n'est pas une question d'identité, c'est vraiment un désir de répondre à la soif des âmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie soif. Il faut dénuder la soif. C'est une phrase de Gustave Thibon, du philosophe Thibon, que j'aime beaucoup. Dénuder la soif de nos contemporains, qui s'expriment dans des tas de manières. Peut-être elle s'exprime mal, de manière grossière, simpliste, tout ce qu'on veut. Mais en revanche, il faut l'entendre et il faut y aller, quoi.
Père Christian Delarbre, vous, même si vous n'y adhérez pas, est-ce que vous comprenez les inquiétudes de cette partie des chrétiens de France qui se sentent menacés dans leur identité de chrétien et dans leur identité de chrétien français?
Je comprends. Enfin, en tout cas, ce qu'on disait, hein, c'est que cette question identitaire relève de peur, en effet, et ces peurs, elles ont forcément un fondement, hein. Il n'y a pas de raison de nier cela. Après, on sait que comme chrétien, la peur est mauvaise conseillère, c'est-à-dire qu'elle risque d'entraîner à des replis, en fait, à quitter le Christ, en fait. Donc il y a vraiment besoin d'un acte de foi. C'est pas la première fois que les chrétiens sont dans des situations sociales compliquées, où ils sont minoritaires, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Hein. Attention, on est en Église, on est en France, il ne faut pas trop vite se dire Église minoritaire, là aussi on pourra revenir là-dessus. Mais enfin bon, dans des situations ecclésiales, enfin sociales qui peuvent être compliquées. Donc il y a une question, il y a deux choses je dirais. Il y a de faire attention à la peur, qui fait que
au bout du compte, en quoi on va mettre sa confiance? Est-ce qu'on va mettre sa confiance en des repères extérieurs ou est-ce qu'on va mettre sa confiance dans le Christ qui va se donner à connaître à travers des choses, des signes, des signifiants? Vous avez parlé des sacrements, une parole, enfin voilà, la charité active. On pourra revenir sur cette question très intéressante, ce que vous dites, comment il y a vraiment des questions pastorales qui se posent sur la façon dont on annonce le salut aujourd'hui. Ça, c'est exact, c'est vraiment très juste. Donc il y a cette question-là, de ne pas se laisser gouverner par la peur, qui est mauvaise conseillère et qui est une tentation, voilà, qui est un manque de foi quelque part. Il y a un risque de manque de foi. Ensuite, il y a l'autre point, c'est la grâce d'être catholique. Parce que la grâce d'être catholique, c'est la pluralité des catholiques. Et dans une société où les identités sont mouvantes, le fait que dans une église catholique, il y ait une pluralité de catholiques, en fait, il n'y a pas qu'une seule manière d'être catholique, parce que être catholique, c'est une communion qui ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui construisons l'identité catholique, c'est vraiment une communion de foi, communion des sacrements, c'est une communion du Seigneur, une communion qui a des repères, et qui permet, dans une société plurielle, d'avoir une église plurielle. Et ça, c'est une grande force. C'est un élément central de notre foi, la dimension catholique. Ne pas être une église en archipel. Ça, c'est un peu ça dont il faut se garder. Hein. Et accepter que la pluralité des manières d'être catholique dans la communion est une forme d'inculturation, de réponse à la pluralité des gens, des identités, des lieux de vie. Si on veut être missionnaire, il faut être sur les terrains. Or, chacun, on sait bien, tel qu'on est construit, on n'est pas sur tous les terrains. On est sur les terrains où la vie nous a mis, notre famille, toutes sortes d'éléments. Hein, vous disiez, Toulouse, vos parents, on est dans un terrain. Et c'est le lieu où on va être missionnaire. Mais voilà, la grâce d'être catholique, c'est qu'il y a une pluralité de présence dans des terrains différents. Je pense à tous ces chrétiens qui sont dans des cités de nos banlieues, des chrétiens qui beaucoup viennent d'ailleurs et qui ont un rôle essentiel à jouer. Et ils sont catholiques autrement que nous, parce que souvent ils sont issus de l'immigration et d'une immigration récente. Et ils forment les assemblées du dimanche de la première couronne de Toulouse ou des couronnes parisiennes. Et ils sont confrontés. Comment on est chrétien? Comment on témoigne de sa joie? Comment on manifeste la charité? Comment on entre en dialogue avec des personnes d'autres identités et d'autres venues? Comment cette confrontation, cette entrée en dialogue n'est pas simple? Et bien sûr, il y a des confrontations. Voilà. Et je trouve que c'est beau. Enfin voilà, il y a une question catholique. La peur est une tentation. L'autre tentation, c'est de ne pas voir la pluralité catholique. Voilà, ce sont deux points que je dirais.
Jean-Pierre Denis, donc sur cet aspect de la question que j'ai posée tout à l'heure, sur ces peurs que peuvent ressentir certains chrétiens de France qui se sentent menacés dans leur identité, et je le redis, dans leur identité de chrétien de France.
Ben voilà, le mot clé finalement dans cette question, c'est le mot France. C'est pas le mot chrétien. Et en effet, moi je crois qu'il faut juste le reconnaître. Il y a un certain trouble dans qu'est-ce que c'est qu'être français. Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a frappé pendant l'affaire des sous-marins français vendus à l'Australie. Et puis, quand l'Australie a dénoncé le contrat, j'étais très frappé par le fait que ça suscitait un débat politique, enfin, une information, c'était relayé. Mais enfin, on n'a pas vu un seul Français descendre dans la rue pour brûler, par exemple, des drapeaux australiens ou des drapeaux américains. Ça nous semble absolument évident, dans beaucoup d'autres pays, peut-être dans tous les autres pays, ça se serait passé comme ça. Peut-être à l'instigation du pouvoir politique, mais enfin ça se serait passé comme ça. Donc, la question de qu'est-ce que c'est qu'être français, est-ce que les Français sont fiers d'être français, jusqu'à quel point ça s'exprime, elle est aujourd'hui devenue beaucoup plus complexe, compliquée, et donc, le trouble, je crois, il est d'abord là. Je pense qu'il faut le reconnaître sans tabou. Après, justement, l'identité française, c'est aussi ce rapport à l'universel, etc. Donc, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus riche. Et la caractéristique des Français, c'est peut-être que, justement, ils ont une identité qui a toujours été à la recherche de l'altérité. Donc, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Donc, pour moi, il y a ceci, il faut d'abord le poser et le reconnaître assez tranquillement, parce que si on ne pose pas ce diagnostic, on est quand même dans les faux-semblants. Le point qui m'intéresse en tant que catholique, c'est quand on en arrive à nier la composante chrétienne dans la culture française. Et vous avez fait allusion au fait que j'étais depuis récemment directeur d'un département de Bayard Presse qui s'appelle Culture et Religion, qui publie par exemple la revue Prions en Église, et j'ai demandé est-ce que ça s'appelle Culture et Religion, parce que justement, on voit bien qu'il y a une crise culturelle et il faut que les catholiques s'expriment, en fait, descendent dans le champ culturel avec courage et avec un peu d'imagination. Donc on est dans cette situation dans laquelle on va essayer d'évacuer l'héritage chrétien. Mais évidemment, c'est totalement impossible. Et donc on est dans une... dans un déni qui est maladif, d'où le réflexe identitaire. C'est vrai que en venant en chemin, en levant, je ne pouvais pas m'empêcher en passant devant le musée des Augustins, en voyant le clocher, je ne pouvais pas m'empêcher de voir ce clocher. C'est un musée, c'est le musée des Augustins, ce n'est plus un couvent, mais il y a un clocher. Et ce clocher, il continue à faire signe. Donc, ce déni-là, il est une forme de maladie, et je pense qu'en effet, il faut répondre à cette question. Voilà. Là où je dirais stop, c'est quand on va vouloir ramener la question chrétienne à cette question. Pour moi, c'est une question qui est importante du point de vue de la culture française, mais, pardon, je vais le dire de manière un peu provocatrice, comme Français, je suis tout à fait désolé que l'on nie cette évidence de la culture chrétienne, de Saint-Vincent de Paul, toute cette présence française. Et comme catholique, je m'en fiche un peu. Parce que comme catholique, j'en reviens toujours et encore à la même question.
Le père Christian Delarbre pointait un phénomène, il parlait d'archipélisation des identités. Est-ce que finalement la communauté chrétienne en France, ou les chrétiens de France, ne suivraient pas la pente de la société, se séculariserait au sens où la communautarisation de la société se ferait sentir aussi parmi les chrétiens. Est-ce que c'est un risque, selon vous, Aymeric Pourbet ?
Alors, si vous permettez, je vais d'abord... j'aimerais prolonger la réflexion précédente sur la culture, parce qu'elle me paraît très importante. Et peut-être ça répondra d'ailleurs à votre question. C'est-à-dire que je crois que, malheureusement, pendant des décennies, les catholiques ont abandonné le secteur de la culture et que le résultat, évidemment, on le déplore, mais le résultat, c'est qu'effectivement, cette culture, eh ben, c'est les idées chrétiennes devenues folles, comme disait Chesterton, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut être missionnaire, il faut absolument réinvestir ces secteurs que sont l'enseignement, que sont les médias, que sont tous les domaines de la culture qui, dans les bonnes familles bourgeoises catholiques, eh bien, n'étaient pas très bien vues, étaient mal considérées. Et je crois que c'est vraiment une erreur, en tout cas aujourd'hui. On ne peut pas prétendre être missionnaire sans investir ces lieux-là, parce que d'abord, c'est très bien d'aller proclamer le Christ dans la rue, mais je pense qu'il y a des moyens aussi qui sont démultipliés, comme l'école. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 40% des élèves qui sont passés ou passeront dans une école catholique, donc c'est une responsabilité énorme en termes d'évangélisation. Évidemment, les médias touchent énormément de monde. C'est aussi un lieu, on pourrait en parler, de combat, parce que les idées chrétiennes ne sont pas forcément bien vues, mais néanmoins, il faut que les chrétiens soient présents, il faut qu'ils se forment, il faut des profs chrétiens, il faut des journalistes chrétiens, il faut des gens qui écrivent des livres sans forcément porter l'étendard en disant « je suis chrétien », mais qui écrivent de bons livres et qui diffusent cette culture chrétienne, parce que, encore une fois, la foi n'est pas un en-soi, la foi est... insérer dans une culture, dans notre culture, la culture française. C'est pour ça que moi j'ai du mal à séparer les deux. Je veux dire, on est français, qu'on le veuille ou non. Et donc moi j'aime mon pays. J'ai envie effectivement que c'est même pas une question de valeur, mais que l'Évangile soit présent dans mon pays à tous ses niveaux, dans sa culture et donc et idéalement même dans sa politique. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Et donc je peux pas me résoudre à ce que oui, l'affaire des sous-marins, effectivement, c'est pas du même ordre, mais néanmoins, voilà, je pense que servir le bien commun, c'est aussi une forme de mission, la plus haute forme de charité, disait Paul VI, c'est la politique. Et donc, tout ça est lié. Il n'y a pas d'un côté mon catholicisme, de l'autre ma culture, ma nationalité, etc. Et donc, ce continuum-là, il faut le faire vivre, il faut qu'il soit le plus harmonieux possible, évidemment, même s'il y aura toujours un hiatus. Hein, être chrétien, c'est jamais facile, ça n'a jamais été facile de tous les temps, et aujourd'hui aussi. Donc. Mais néanmoins, je pense quand même qu'on peut travailler à cette unité, à cette harmonie, à notre notre niveau, avec nos moyens. Pour ça, il faut se former. Et encore une fois, il faut accepter aussi un certain inconfort. Je crois que vraiment l'urgence de la situation, elle est là. C'est vrai que moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai dit à mon père que je voulais être journaliste, il m'a dit « Ah bon, tu vas être un piscopi ». Voilà. Donc bon, et puis je l'ai fait quand même. Mais ça veut dire que c'était mal considéré dans ce milieu-là. Eh bien, je crois qu'il faut passer au-dessus de ça aujourd'hui parce que la société, le monde l'attend.
On reviendra à ce que vous voulez dire, mais vous voulez réagir, Père Christian Delarme.
Oui, mais je voulais prolonger la réflexion, hein, parce que justement, sur la question culture, finalement, donc vous avez traité tout cet aspect que sur lequel je consonne, mais au bout du compte, on a aussi, parce qu'ici, on a beaucoup de paroissiens et de curés de paroisse, et je voudrais leur ajouter deux éléments. Évidemment, il y a toute la question de l'inscription du christianisme dans les paysages, et qui sont des lieux de mission essentiels dans nos pays, surtout dans le sud-ouest où on a beaucoup de tourisme. Ça a toujours été un lieu de mission important. Et ça l'est de nouveau. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'église des chrétiens. Voilà. C'est beaucoup plus large que ça. On l'avait vu avec l'incendie de Notre-Dame. Comment. Et comme chrétien, comme chrétien, comme catholique, parce que là aussi on dit chrétien, c'est un peu rapide. Enfin, bon, comme catholique, on a vraiment apporté, voilà, toute une dimension d'évangélisation par la culture, mais aussi par la découverte de ce que c'est, de ce qu'il y a autour. Parler d'un clocher, une bonne partie de la population ne sait pas ce qu'est un clocher. Ils en voient tout le temps, mais ils ne savent pas ce que c'est un clocher. Donc il y a toute une dimension qui est très proche là de la vie paroissiale, hein, de ce qu'on fait dans nos paroisses. Et puis la deuxième, c'est que s'il y a 50% des Français qui se disent croyants ou non-croyants, dans les études récentes, il y a encore 50% des Français qui se disent catholiques. Ça veut dire qu'évidemment, il y a des catholiques qui ne sont pas croyants. Ben, ça, on savait. Il y a une partie de gens qui, quand ils répondent au sondage, disent qu'ils sont catholiques. Ça fait partie de leur identité, de leur représentation d'eux-mêmes, je ne sais pas. Et en même temps, ça nous surprend, ils ne sont pas forcément croyants. Or, cette réalité, nous allons la rencontrer dans la vie pastorale. Et ça rejoint la question du message de salut. Aujourd'hui, on est démunis. Comme pasteur, quand je prépare des baptêmes ou des mariages, ou des obsèques, mentalement, nous, dans la paroisse, on pense qu'on prépare à un sacrement ou à un rite des chrétiens. Mais le paradoxe, c'est qu'on prépare à des sacrements ou à des rites des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. C'est très particulier quand vous y pensez. Et souvent, la réflexion des paroissiens, des équipes de préparation, des prêtres, c'est de dire, on ne peut pas baptiser ces gens-là, ils ne croient pas. On ne va pas baptiser cet enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il ira au catéchisme? Est-ce qu'on va marier des gens qui n'ont pas la foi? Oui. Or, c'est une vraie question d'évangélisation. Alors, soit on dit, ben non, on n'en veut pas, soit on dit, quelle apologétique, c'est un terme un peu... Enfin, quelle annonce, comment de ces lieux qui étaient des lieux simplement de transmission de la foi dans un milieu chrétien, nous découvrons que ce sont des lieux d'évangélisation. C'est paradoxal. Nos prêtres, nos confrères qui viennent de l'étranger sont toujours un peu choqués, étonnés, de dire, mais on fait le baptême d'un enfant de gens qu'on n'a jamais vus à la messe. Ouais. Alors, soit on dit que c'est... Ouais. Donc là, c'est ça aussi, prendre en compte la dimension culturelle du catholicisme, ne pas s'en contenter, mais comprendre que ça demande une démarche pastorale différente. C'est ça. Quels sont les mots du salut pour ces personnes qui viennent, ces jeunes de 25 ou 30 ans qui viennent? Quels sont les mots du salut? Quelle est l'annonce de l'évangile qu'il faut faire? Comment on accueille ces demandes? Ça serait paradoxal, alors qu'on veut être missionnaire, de ne rien proposer du Christ à ceux qui demandent quelque chose, et de prétendre aller annoncer le Christ à des gens qui ne nous demandent rien, comme je dis souvent. Donc on a une vraie question très concrète du terrain pastoral. Et souvent, dans nos préparations, dans l'accompagnement de ces étapes, il faut vraiment la repenser sous le mode de l'évangélisation, vraiment.
Émeric Pourbet, vous voulez prolonger l'intervention du Père Delarme.
Oui, avec un exemple tout frais qui me vient d'un des confrères de Jean-Pierre, qui est journaliste également, et il se trouve qu'il a beaucoup chanté dans un chœur grégorien. Alors on peut se dire le grégorien, c'est quelque chose du passé, désuet, qu'on n'entendrait plus, etc. Eh bien, il nous a raconté, parce qu'on a fait un dossier sur ce sujet dans France Catholique qui est à paraître, il nous a raconté que une personne qui n'était pas chrétienne, qui était, je crois, musulmane, a découvert la beauté de ce chant et a fini, après une longue... un long cheminement, par demander le baptême. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je crois beaucoup aujourd'hui au rôle de la beauté, que ce soit de la musique, de l'art, pour attirer des gens, dans le bon sens du terme, vers la foi, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait accessible, qui se passe de concept, qu'on peut constater, que tout le monde peut constater. Et je crois vraiment qu'il faut que nous, catholiques, tous à notre niveau, on soigne ce rapport au beau, qu'on le retrouve peut-être, qu'on construise, quand on en construit, des belles églises, qu'on fasse de belles liturgies, des chants qui attirent, parce que souvent, malheureusement, on a tendance à se recroqueviller un peu sur notre répertoire qui commence parfois à être daté et qui est tout sauf attirant, il faut bien le reconnaître. Donc je crois que vraiment, il faut qu'on porte l'effort là-dessus, tous à notre niveau, soit en faisant partie d'une chorale ou quoi que ce soit. Alors ça ne veut pas dire forcément mettre du grégorien dans toutes les paroisses, ce n'est pas forcément évident, mais voilà, c'est un exemple pour dire vraiment ce rôle de la beauté dans l'évangélisation, quand parfois les mots sont peut-être plus difficiles à prononcer face à des gens qui n'y connaissent plus rien.
Jean-Pierre Denis, monsieur le directeur de Bayard Culture et Religion, une nouvelle évangélisation par la beauté, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien sûr, alors il y a du boulot, hein, parce que souvent c'est moche hein, chez nous. Bon, je n'ai pas besoin de faire la liste des problèmes, mais à commencer par des églises sales, mal entretenues, pas forcément, parce qu'on a évidemment... pas toujours la possibilité de les entretenir, mais aussi parce que je suis pas sûr qu'on ait toujours le sens de la beauté. En tout cas, si c'est le cas, c'est bien, en effet. Je suis profondément d'accord sur le fait que par la beauté, par l'émotion, par l'expérience artistique, par les sens, on a vu, Louis, il y a des portes d'entrée dans la foi chrétienne. En fait, c'est pour ça que je disais qu'il faut faire signe. Et en effet, la beauté fait signe, y compris dans des langages contemporains. Il peut y avoir des expressions, y compris dans l'art contemporain, donc le grégorien, en effet, pourquoi pas, mais j'écoutais la semaine dernière un requiem réalisé par un compositeur contemporain, donc dans une musique d'aujourd'hui, et c'était pas mal, hein. C'était peut-être pas le requiem de Mozart, mais c'était bien. Donc, la beauté, c'est un langage d'aujourd'hui aussi. C'est pas réservé au musée, je dirais. Après, je crois qu'il y a de multiples portes d'entrée, et si le christianisme doit faire signe, si le christianisme missionnaire doit faire signe, il le fait à de multiples endroits. Pendant le confinement, dans ma paroisse, c'était... comme toutes les paroisses, l'église était fermée. En tout cas, il n'y avait pas de célébration, mais il y avait des tables devant l'église et des milliers de repas ont été distribués. Ce qui m'intéresse, c'est que ces repas étaient distribués devant l'église, au nom de l'église, et je crois que c'est très important, par des chrétiens, mais aussi par des gens qui découvraient peut-être l'église, dans les gens qui venaient participer à la distribution des repas. C'était aussi un lieu, en fait, d'évangélisation, de témoignages. Donc voilà, ces lieux, ils sont multiples. Ils sont dans le champ culturel, ils sont dans le champ de la charité, beauté, charité. Voilà, charité, c'est un mot que je trouve qu'il faudrait réhabiliter. Ils sont dans tous ces champs et c'est pas limitatif.
Alors, je vais revenir à la question que je vais poser tout à l'heure, et ramener un aspect un peu plus terre à terre de notre débat sur la question de l'archipélisation, de la dérive communautaire dont même la société française est touchée depuis quelques années. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque aussi de communautarisation au sein de la communauté, au sein des chrétiens de France ? Émeric Pourbet.
C'est difficile de répondre à cette question. Je crois que on est quand même immunisé, sans forcément avoir été vacciné, par le fait que, encore une fois, le christianisme dans ce pays a une histoire, et une histoire qui remonte en fait à sa fondation. C'est pour ça que j'ai du mal à distinguer l'amour de mon pays et ma foi, parce que finalement, la France est un pays où les deux sont intrinsèquement liés. Et donc, quelque part, ce qui a fait le ciment, on parle d'archipélisation, d'archipélisation, pardon, parce que justement on s'éloigne, il me semble, de la foi, les Français s'éloignent de la foi, et par conséquent, effectivement, chaque communauté, en quelque sorte, reprend ses billes. Bien, donc, mon espoir, c'est que de maintenir cette oripeau de la foi haut dans ce pays, c'est-à-dire d'être vraiment catholique, eh bien, permettra un jour, peut-être, on peut l'imaginer, que les gens y reviennent, ne serait-ce que parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un problème dans ce pays. Regardez, c'est l'exemple de Napoléon. Napoléon, bon, il était corse, donc il était un peu chrétien, mais disons que pendant, jusqu'à la fin de sa vie, j'accepte la fin de sa vie, il s'est plutôt servi de la religion. Bon, ok, c'était son droit. Néanmoins, voilà, il s'est rendu compte que le catholicisme était la force d'unité de ce pays, et quelques années à peine après la Révolution, il a signé un concordat, justement, pour utiliser cette force, alors peut-être à son profit, néanmoins ça a redonné de la vigueur à l'Église, et donc l'Église, et même le pape qui l'a signé, Pie VII, était conscient que c'était plutôt une bonne chose aussi pour l'Église. Vous voyez, les choses sont pas binaires, c'est pas noir ou blanc, mais en l'occurrence, je crois vraiment que on est immunisé contre cette tentation du communautarisme parce que on a cette longue histoire derrière nous. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on voudrait nous faire croire qu'on redémarre à zéro, qu'il n'y a plus d'histoire, c'est la fameuse culture de l'effacement ou cancel culture qui sévit dans les universités américaines, mais c'est en train de venir en France. Et je crois que là-dessus, il faut vraiment se battre pour ne pas faire oublier cette histoire. Parce que, encore une fois, on a une longue expérience derrière nous.
Jean-Pierre Denis, est-ce que vous croyez que nous sommes immunisés?
Alors c'est un point sur lequel je pense qu'il y a un certain désaccord entre nous. J'aime bien l'exemple de Napoléon parce que précisément il permet de peut-être de mettre des mots sur un désaccord de manière assez concrète. Napoléon considérait les évêques comme des préfets. Et Dieu merci, on est sorti de cette Église qui était soumise au pouvoir politique. Parce que l'instrumentalisation politique du christianisme, pour moi, c'est un risque vraiment très fort. Et donc oui, je vois très bien de quoi on parle. Et ce risque-là, pour moi, il est absolument évident, et chaque fois qu'on a fait cette alliance, on va dire du trône et de l'autel, alors évidemment, ça peut avoir des bénéfices, hein, c'est certain. Mais si les couvents sont, les abbayes sont vides à la veille de la Révolution française, ou en tout cas avec peu de moines, c'est parce que le système de la commande, en particulier au moment de disons Louis XIV, c'est parce que le système de la commande a vidé en fait les abbayes de leur vocation. C'est devenu des bénéfices. Donc cette alliance politique, elle est pour moi extrêmement dangereuse. Et donc là, j'ai un vrai désaccord. Chaque fois que on la voit ressurgir aujourd'hui et qu'il y a une façon d'instrumentaliser le christianisme, je dis attention. Voilà. Et il peut y avoir plein de façons d'instrumenter le christianisme. Aujourd'hui, ça a été Donald Trump, Salvini en Italie, ça peut être Viktor Orban, ça peut être qui vous voulez. Et souvent, c'est intéressant, c'est fait par des gens qui, en fait, se moquent un peu du christianisme, mais ils ont senti effectivement qu'il y avait un fil politique à tirer, ce que on peut comprendre. Et donc, mais je distinguerai en même temps de la question de ce danger d'une Église qui se recroqueville, parce que je crois qu'il y a un souci de... on l'a tous, en fait. On sent bien qu'on est moins nombreux, on a envie de se serrer les coudes, on a envie de se protéger, je m'inclus. On a envie de se retrouver, je m'inclus. On a envie, en fait, finalement, de former un petit club sympathique où on se retrouve. C'est pas négligeable, c'est compréhensible. C'est nécessaire même.
C'est humain.
C'est nécessaire, c'est humain, et c'est comment dire, là aussi quelque chose qui, à un moment donné, risque de se retourner contre nous. C'est-à-dire que finalement, on va être digéré dans ce grand bain des minorités. Voilà, une minorité parmi d'autres, un peu bizarre, peut-être sympathique, pas toujours, dont on se méfie un petit peu, dont on se moque aussi éperdument. Et donc, moi, je terminerai par me rappeler que l'Église est une sainte catholique, c'est-à-dire universelle, apostolique, c'est-à-dire missionnaire. Par ailleurs, elle est romaine. Voilà. Par ailleurs, elle est romaine. Et donc, elle n'est pas française, puisqu'elle est romaine. C'est QFD. Voilà. Et donc, l'Église de France n'est pas française, elle est romaine. Vous voyez ? Donc, cette distance constamment, ce jeu-là constamment, entre ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons, pour moi, il est très fécond, en fait.
Alors, Père Christian Delard, vous avez eu le mot du début, vous aurez le mot de la fin. Le christianisme, je ne sais pas si nous sommes immunisés, mais est-ce que c'est l'antidote à la fragmentation, à la communautarisation de la société ?
Non, il faut prendre au sérieux. Hein. C'est, l'histoire de l'Église nous apprend que la division de l'Église n'est pas une théorie, hein, et que ce sont des tensions souvent historiques, enfin, qui viennent toucher des tensions dans l'Église. Mais il y a des grands mouvements, des mouvements historiques et des mouvements culturels qui font que ça vient toucher à un moment ou à un autre l'unité de l'Église. Hein. Et donc, pour continuer sur le thème, enfin, on ne peut pas redire ce qui a été dit, mais d'ajouter un élément, ce qui peut nous préoccuper en effet, ce qui est nouveau dans notre culture, c'est cette tendance, par les nouveaux moyens de communication, que les mêmes rencontrent les mêmes. Les mêmes parlent aux mêmes.
L'entre-soi.
Voilà, c'est l'entre-soi. Et qu'au bout du compte, on finit par ignorer, dans l'Église même, et non seulement ignorer, mais imaginer qu'ils sont moins l'Église que nous, quoi. Vous voyez, c'est toujours un peu le problème. Parce qu'on... Et c'est pas quelque chose, c'est humain. Enfin, il y a quelque chose là-dedans qui est à la fois universel et pas nouveau. Mais les moyens techniques et la culture actuelle ajoutent au danger. Voilà. On pense aux réseaux sociaux, voilà. Où finalement, on vit entre soi, on entend les opinions des gens qui pensent comme nous, et on ne parle qu'à ceux qui sont déjà convaincus. Évidemment, vous voyez bien qu'en le décrivant, c'est l'antimission par excellence. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et l'antidote à cela, c'est la grâce d'être catholique, justement. Hein ? C'est une grâce à recevoir, mais à construire aussi. C'est-à-dire ne pas préférer sa propre construction identitaire, hein, quelle qu'elle soit, son propre ensemble de choses qui nous identifient, ne pas le préférer à la communion catholique. À chaque fois qu'on fait ça, on finit par sortir de briser ou d'abîmer la tunique du Christ. Voilà. Donc là, et là, il y a quand même, c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit attentif. Et donc c'est le rôle de l'Assemblée d'être plurielle, d'être attentive à la manière dont elle rassemble, ou dont elle n'est pas monochrome. Dans les assemblées, dans les paroisses, ou quand on se regarde, on a l'impression qu'on est un peu monochrome, il faut se demander pourquoi. Est-ce qu'on est en ville et que c'est un peu normal? Il y a des églises de quartier qui sont un peu chacune avec le milieu social du quartier. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a fini par mettre dehors tous les gens qui n'étaient pas comme nous? Et c'est un phénomène où tout le monde doit faire son examen de conscience. Vous voyez? Il n'y a pas des... Voilà. C'est une tendance naturelle, mais trop humaine, qui n'a rien de chrétien et encore moins de catholique. Et ça, quand même, on parle de catholicisme, c'est quand même c'est cette notion d'universel, c'est-à-dire c'est de la communion des différences. Hein. Les diversités qui sont en communion. Et il y a des éléments de communion objectifs pour ça. Il faut faire très attention. Je pense quand même qu'on doit être attentif dans nos communautés chrétiennes, dans nos paroisses, dans nos diocèses, à cette pluralité. Et si je veux terminer, on parle beaucoup de synodalité en ce moment. Il faut faire un peu attention. La synodalité, on dit, c'est marcher ensemble, tout ça. OK. La synodalité, c'est surtout trouver un chemin commun. Trouver un chemin commun. Voilà. C'est pas si simple. Hein, souvent, on dit la synodalité, c'est marcher ensemble. C'est un peu irénique. La synodalité, c'est qu'il faut qu'on trouve ensemble un chemin commun alors qu'on est un peu différent, qu'on n'a pas les mêmes histoires, qu'on n'a pas la même perception d'être chrétien. Voilà, il y a des différences légitimes. Et comment on trouve un chemin commun? Ça, c'est l'antidote à cette archipélisation, hein, ce repli sur soi. Et au même parle au même.
Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021. Congrès Mission 2021, table ronde.